Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. 2 ans après les mouvements MeToo et Balance ton porc censés révolutionner les rapports hommes-femmes, où en est-on ? Sous l'appellation toute neuve de féminicide, la presse se fait l'écho de meurtres de femmes pratiquement une fois par semaine. Dans son numéro du 23 septembre, Charlie Hebdo nous apprend que le planning familial, qui a joué un rôle central dans la lutte pour la contraception et le droit à l'avortement dans la seconde moitié du XXe siècle, s'apprête à revenir sur la définition du féminisme universaliste qui était la sienne jusqu'à présent. Certaines de ses antennes locales soutiennent les militantes du Burkini. Voici 4 jours, on a appris également la condamnation en première instance de Sandra Müller, la journaliste à l'origine du mouvement Balance ton porc. Sandra Müller a été condamnée pour diffamation à payer 15 000 euros de dommages et intérêts à Éric Brion, l'homme qu'elle avait dénoncé pour lui avoir fait une remarque déplacée et qu'il accuse depuis de harcèlement. Pendant ce temps encore, nul ne sait avec certitude où en sont en France les affaires Tariq Ramadan et aux USA l'affaire Weinstein, dont le scandale a lancé le mouvement de révolte. Dans ce contexte confus, il peut être utile d'essayer de prendre du champ et de revenir aux origines, de réfléchir sur cette notion de patriarcat que tout le monde agite. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, grâce notamment à Camille Chaplin et Michel Idels. Bonjour, toutes les
bonjour.
Deux.
Bonjour.
Vous êtes traductrice et éditrice du livre événement de près de 600 pages que publient les éditions des femmes, Les sociétés matriarcales, de l'allemande Heide Göttner-Abendroth. Yvan Jablonka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et écrivain et vous publiez cet automne Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités. Et Peggy Sastre, bonjour. Vous
bonjour.
Êtes journaliste scientifique, vous êtes spécialiste des questions de biologie comportementale, éditorialiste au Point, auteur entre autres de « La domination masculine n'existe pas ».
Tout à fait.
Et pour tout arranger, co-signataire de la fameuse pétition dite des Deneuve, voilà. Publiée en 2018.
Dite des Catherine avec
des Catherine. Avec Catherine
Deneuve. Parce qu'il n'y a qu'une Deneuve.
Qui défendait, on s'en souvient, la liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle, pour citer un extrait de la pétition. Mais d'abord, donc, ce livre événement qui est des sociétés matriarcales de Heide Göttner-Abendroth, c'est un livre qui a été publié d'abord en allemand en 5 volumes, puis en anglais sous une version abrégée. La traduction française est la traduction de la version anglaise. Et l'auteur Heide Göttner-Abendroth est une philosophe des sciences qui est fondatrice en 86 de l'Académie internationale pour les recherches matriarcales. Elle est totalement inconnue en France, ça va le croire.
Oui, je pense, mais pour la raison aussi que
plus pour longtemps. Plus pour longtemps.
Il n'y avait eu aucune traduction d'aucun de ses ouvrages.
Voilà, c'est ça.
Au volume, donc,
c'est ça. Ce qui n'empêche pas d'être candidate au prix Nobel de la paix, si j'ai bien compris. Le livre est très impressionnant parce que c'est un livre qui emprunte à l'histoire, à l'archéologie, au reportage. C'est un tour du monde qui va du Tibet aux Indiens d'Amérique, d'Amérique de l'Est et de l'Ouest, d'Amérique du Sud, l'Afrique, enfin toute la planète y passe. Et c'est une étude à la fois historique et contemporaine des sociétés matriarcales. Qu'est-ce que ça représentait d'abord pour vous, simplement sur le projet ? Enfin, vous connaissiez, Michel Idels, vous connaissiez le livre depuis longtemps ?
Pas du tout. On l'a découvert, comme beaucoup de choses qui concernent les femmes, qu'on découvre depuis quelques décennies et qui étaient complètement ignorées jusque-là. Quand on a eu connaissance de ce livre, d'ailleurs par Camille Chaplin, qui est ici, qui avait été contactée par une éditrice italienne, enfin de la part de Heide Göttner-Abendroth, quand on a lu ce livre, on a compris absolument que c'était quelque chose d'absolument immense, de radicalement intéressant, passionnant, qui remet à la racine en cause... pas seulement les sociétés patriarcales, mais le mode de pensée dans nos sociétés.
La manière dont on pense.
La manière, oui. Et c'est vrai qu'une des leçons qu'on ressort de ce livre, c'est d'abord que la domination masculine, contrairement à ce qu'ont pu dire un certain nombre d'anthropologues et non des moindres, que la domination masculine n'est pas éternelle ni universelle.
Alors on va y venir.
qu'elle a été précédée par un autre type de société qui ont été des sociétés matriarcales. Mais tout de suite, je voudrais dire un mot sur le concept même de matriarcat, parce que beaucoup ont dit que le matriarcat n'existait pas. Et le fait est que, comme le développe Heide Göttner-Abendroth, le matriarcat n'existe pas comme image inversée du patriarcat. Et que, en revanche, les sociétés matriarcales, elles, existent, et elle peut en témoigner puisqu'elle a vécu dans un certain nombre de sociétés, puisqu'il y a aujourd'hui encore environ 3 millions de personnes qui vivent au sein des sociétés matriarcales et dans les divers continents. Donc que non seulement elles existent, mais que ce ne sont pas des sociétés de domination du tout, des hommes par les femmes, que ce sont des sociétés au contraire non hiérarchiques, de partage et d'égalité.
Voilà, oui, on va y revenir en détail. Peggy Sastre, vous avez regardé le livre ?
Très très rapidement malheureusement, mais je suis très contente qu'il existe. Merci. Et j'espère que, comme vous dites, qu'il y aura un grand retentissement.
Alors, Yvan Jablonka, je sais que vous n'avez pas lu le livre, puisqu'on a parlé avant que l'émission ne commence. Je voulais que vous soyez là parce que, pour votre livre, Des hommes justes, dont on parle beaucoup depuis le début de l'automne, qui est à la fois, comment dire, une analyse du patriarcat, à sa manière, et en même temps, un livre de militant, un livre qui veut essayer d'instaurer ce que vous appelez les nouvelles masculinités. Ce qui est intéressant, c'est que les deux livres, le livre de Heide Göttner-Abendroth et le vôtre, visent au même objectif, mais ne disent pas la même chose et font des constats quelquefois complètement différents, en particulier dans la partie historique au début, puisque pour vous, vous dénoncez la longévité du patriarcat qui a, si on vous suit, de tout temps existé justement depuis le paléolithique. Ce que Heide Göttner-Abendroth remet en cause complètement. Pour elle, ça existe depuis, en gros, l'âge du bronze, je crois, 3 ou 4 oui, millions avant Jésus-Christ, oui, c'est ça. Et comment vous réagissez à ça ?
J'ai commencé mon livre comme une enquête historique sur les sociétés patriarcales. Et cette enquête naît dans une question qui est simple et qui est individuelle d'une certaine manière, c'est d'où vient mon pouvoir ? D'où vient le pouvoir que je détiens en tant qu'homme ? Et pour répondre à cette question, il faut faire de l'histoire et il faut remonter les millénaires. Je suis pas sûr que le patriarcat ait toujours existé. C'est pas exactement ce que je dis parce que, comme un historien, je me suis demandé à partir de quand on pouvait de source sûre dater l'avènement définitif des sociétés patriarcales. Alors, peut-être que le patriarcat a toujours existé, mais d'une certaine manière, c'est difficile à prouver pour des sociétés, évidemment, sans écriture, mais même qui nous ont laissé très peu de traces matérielles comme celles du paléolithique supérieur. La conclusion à laquelle je parviens, c'est que l'avènement ou l'enracinement définitif des sociétés patriarcales, c'est-à-dire de la domination masculine, c'est, pour l'Europe, la fin du néolithique, c'est-à-dire, on va dire, en gros, 4000 ans avant notre ère, et c'est ce qui explique que les hommes monopolisent immédiatement ces grandes inventions que sont l'écriture, puis l'État, les armes de guerre ou encore les monothéismes.
Vous dites le paléolithique, le néolithique, l'antiquité, tous ces moments où le masculin a cessé d'être un point de vue pour devenir l'incarnation du supérieur et de l'universel. On ne connaît aucune société où les femmes en tant que groupe exercent l'ensemble des pouvoirs moraux, politiques et économiques, en codifiant la vie sociale ou en prenant les décisions qui engagent toute la communauté. Et ailleurs, on peut donc supposer que la domination masculine était planétaire aujourd'hui comme hier, elle a toujours existé, découlant d'une interprétation universelle des phénomènes biologiques universels. Et vous dites quelque part, depuis au moins le néolithique.
Oui, c'est vrai qu'il me semble qu'au néolithique, à partir du moment où les sociétés humaines se sédentarisent, eh ben, il va y avoir un certain nombre d'exigences, de poids, de servitude qui vont peser de manière écrasante sur les femmes, notamment le fait de s'occuper des enfants, c'est-à-dire le service et peut-être même les servitudes maternelles et domestiques et ancillaires. Pourquoi la sédentarité est si importante ? C'est que dans un contexte de nomadisme, les femmes ou en tout cas les parents doivent porter les enfants, et pour cette raison, on ne peut pas non plus en porter deux, trois. Alors que dans un cadre sédentaire, c'est possible d'avoir un enfant tous les ans. Et là, on voit d'ailleurs, on sait qu'il y a une explosion démographique vers le 7e, 6e, 5e millénaire. Et à cela s'ajoute qu'à partir du moment où une société est sédentaire, il y a une sphère domestique et une sphère extérieure. Et là, il va y avoir un partage définitif, c'est-à-dire aux femmes la sphère domestique, l'intérieur, on dira plus tard la cuisine, et aux hommes la découverte du monde, tout le reste, et donc les responsabilités et les libertés qui vont avec.
Alors, Heide Göttner-Abendroth, elle commence par discuter les termes qu'elle emploie. C'est-à-dire qu'elle se pose la question au début de savoir comment appeler ces sociétés qui ont précédé le patriarcat. Elle dit que ces sociétés qui ont été successivement baptisées matrilinéaires, matrifocales, matristiques. Ou gilanique, c'est compliqué. Et finalement, elle s'arrête, elle maintient la notion de matriarcat. Et ce qu'elle explique, c'est que le terme grec arché, qu'il y a dans autant dans le patriarcat que dans le matriarcat, ne signifie pas seulement domination, mais début. C'est-à-dire que le matriarcat, c'est la société qui place les mères au début. Oui. Et on va voir que ça conduit quand même un petit peu loin dans certains cas. Ce qu'elle dit, effectivement, c'est que le matriarcat n'est pas le règne des femmes, ni une image inversée du patriarcat, car c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les femmes n'ont jamais eu besoin des structures hiérarchiques du patriarcat. Les peuples matriarcaux se fondent sur l'égale valeur de chacun des membres.
Des sociétés d'équilibre. Elles insistent d'équilibre. C'est un critère fondamental pour elles. De garder à l'esprit cette notion d'équilibre.
Alors donc, les deux thèses quand même se contredisent quand même sérieusement, parce que vous, Yvan Jacques-Lonca, vous dites qu'il y a une socialisation de constats biologiques, si je vous suis bien, tandis que vous dites, Heide Göttner pas spécialement, en réalité, la biologie n'empêche pas le développement de sociétés, n'a pas du tout empêché le développement de sociétés complètement différentes, qui étaient beaucoup plus égalitaires, où les hommes et femmes se partageaient les tâches, et c'est simplement à partir de l'âge du bronze, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, qu'une sorte d'aristocratie, si je comprends bien, alors comment ça s'est plus ou moins passé dans ce qu'elle...
Elle explique d'ailleurs que ça ne se passe pas de la même façon pour toutes les sociétés partout dans le monde. Donc c'est très spécifique. Et je voulais insister sur un point, c'est qu'elle elle ne parle pas, justement Heide Göttner ne parle pas de matriarcat spécifiquement. Elle parle des sociétés matriarcales. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est très concret. Elle a fait les études sont sur le terrain. Elle a construit un paradigme qui lui donne un instrument d'observation, si je dirais. Il y a un échange entre ses travaux sur le terrain, ses travaux d'archéologie et la théorie qu'elle a construite. Mais son objet, c'est vraiment les sociétés. Mm-hmm. C'est pas tout à fait la même chose que de dire on parle du matriarcat en général.
C'est ça.
Donc une théorie un peu éthérée, un peu, quelquefois, ça peut être considéré comme une fiction.
Elle ne part pas du concept pour aller vers la réalité, mais elle part
c'est un échange entre sa théorie et sa pratique de terrain, mais son objet d'observation, c'est vraiment les sociétés matriarcales.
Mmh. Et c'est une des choses qui vous différencie aussi.
Oui, justement, je trouvais que c'était très différent.
Oui, Yvan Jablonka, parce que vous partez du terme, en fait, que vous ne remettez pas en cause un instant.
Disons qu'il faut savoir, il faut s'entendre sur les termes. Le patriarcat, c'est le fait que les hommes monopolisent tous les pouvoirs, notamment le pouvoir politique, économique et militaire. Et si je comprends bien, la définition du matriarcat est différente. C'est pas l'opposé du patriarcat avec l'idée que les femmes auraient tous les pouvoirs. Donc, faut être sûr des termes qu'on emploie.
Je veux dire dans la méthodologie, c'est-à-dire que la méthodologie de Heide Göttner-Abendroth est vraiment fondée sur l'étude de sociétés particulières, tandis que vous partez du concept de l'idée d'un patriarcat qui existe de tout temps et de tout lieu.
Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas prouver que le patriarcat existe de tout temps et de tout lieu, et puisque je ne peux pas le prouver, je ne le dis pas. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est fondamental en histoire, c'est savoir les sources grâce auxquelles on peut affirmer quelque chose plutôt qu'autre chose. Alors, une chose est par exemple d'observer les sociétés, par exemple les Mozo en Chine du Sud. Une autre chose est de se demander quelles étaient les sociétés patriarcales ou matriarcales au 5e millénaire avant notre ère. On n'a pas, à ma connaissance, de preuves que les Mozo existaient il y a 5000, 6000 ans. Donc une chose, c'est les traces qu'on a des sociétés du paléolithique supérieur ou du néolithique. Une autre chose, c'est des observations de nature ethnologique à partir de sociétés du XXe siècle ou du XXIe siècle.
Est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? Ce qu'il y a de très remarquable dans ce livre, c'est qu'il apporte des connaissances qui ont été très très largement refoulées au fil des siècles. Son autrice passe en revue les recherches qui ont été faites avant elle sur les sociétés matriarcales. Et elle relève à quel point d'abord elles ont été sporadiques, elles ont été peu reconnues, elles ont été relégué les anthropologues qui s'intéressaient à ces sociétés à une forme de marginalité. Et donc c'est vrai qu'elle a eu le courage de se consacrer à quelque chose qui était très très mal vu. C'était des recherches qui étaient quasiment, interdites à l'intérieur même de l'institution universitaire, puisqu'elle était obligée, après avoir enseigné pendant 10 ans à l'université de Munich, elle a été obligée de quitter l'université pour faire une fondation, pour mettre au jour ses connaissances. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je pense que ce livre va apporter une immensité de connaissances qui manque à la conscience humaine aujourd'hui.
Alors, une des choses, effectivement, qu'elle raconte dans le début du livre, Aïda Kotner-Abendroth, c'est la manière dont cette histoire du matriarcat a été à la fois découverte et recouverte au fur et à mesure. Elle cite plusieurs chercheurs ou chercheuses, et non des moindres, hein, Marie Koenig par exemple, une préhistorienne de réputation mondiale, honorée par l'Académie française, mais pas pour ses travaux sur le sujet. C'est une des spécialistes de la grotte de Lascaux, entre autres, et elle a fait l'analyse de systèmes d'abstraction de dessins préhistoriques, notamment les premiers cultes lunaires, les signes matérialisant, représentant le temps et l'espace. Et sa thèse, c'est que c'est la plus ancienne religion telle qu'elle apparaît sur les peintures rupestres, centrée sur la vie et la mort, les cycles et la renaissance. Ces symboles sont tenus par une femme et montre l'existence ou les restes d'existence d'un culte féminin, en fait, de culte féminin. Cette thèse a été reprise ensuite et avant elle et après elle par des gens comme Richard Fester, le paléolinguiste, mais surtout ce que j'ignorais moi-même d'ailleurs, George Fraser, le fameux auteur du Rameau d'or, et Robert Graves, surtout. Robert Graves en particulier a développé l'idée d'une théocratie matriarcale détruite par une aristocratie militaire composée d'hommes à partir de l'âge du bronze, en gros, il date. Et ces théories ont toutes été marginalisées, considérées comme irrationnelles et le produit d'esprits plus ou moins folkloriques ou dérangés. Peggy Sastre, vous connaissiez cette histoire ?
Mais pas du tout, je trouve ça vraiment passionnant et justement, comment essayer de assez bien formuler ce que je pense. Enfin, déjà, c'est pas ce que vous disiez il y a quelques minutes. C'est pas une anomalie. Moi, je pense que les plus grandes avancées pour la connaissance se font en dehors de l'institution académique. Et je trouve ça très intéressant comment, avec l'ajout de nouvelles connaissances, on va justement moduler presque notre activité. Enfin, pas notre, parce que je m'inclus pas dedans, mais justement l'activité militante et même l'activité idéologique, en fait. Et je trouve ça vraiment très passionnant, cette évolution en fait constante avec l'ajout de nouvelles connaissances, et ça remet tout en question, et il y a des choses qui restent et des choses qui restent pas, et je trouve ça vraiment formidable.
Oui. Elle fait à partir de ses recherches, elle fait effectivement de la recherche de terrain à partir de ses découvertes intellectuelles. Elle fait une série de recherches de terrain en Inde, au Népal, au Tibet, en Chine, et puis ensuite sur l'ensemble de la planète, Afrique aussi beaucoup.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann. Why don't you turn me loose? I can run away. Why don't you turn me loose? So I can run away. Don't get lost in the night time. I think I'll be just fine during the day. Why don't you turn me loose so I can run away? Yeah, why don't you do what's right instead of doing what's wrong? Why don't you do what's right instead of being all wrong? Lust ain't love and it must not be trusted. Move on quickly once I drop my crutches. Do right instead of doing what's wrong.
Alors, encore une fois, ce qui m'intéresse dans la comparaison entre vos deux livres, c'est la différence de plus que de méthodologie, mais de regard posé. C'est-à-dire que Ade Gottner-Abendroth mise sur la diversité des lieux, des espaces, des temps, pour essayer d'avoir un regard panoramique. Vous, Yvan Jablanca, j'ai l'impression que vous visez plutôt un point précis, c'est-à-dire en l'occurrence le patriarcat, qu'il faut éradiquer. Et toute votre analyse de l'histoire est sous-tendue par ça, et même, c'est plus que sous-tendue, c'est essentiellement votre analyse. Tout est passé au crible de ce prisme-là.
En effet, je m'interroge sur la domination masculine et les moyens d'en sortir. Maintenant, ma réflexion est mondiale parce que le patriarcat est un phénomène mondial. J'ai essayé de parler dans mon livre de l'Europe, mais aussi des deux Amériques, de l'Asie, de l'Afrique, et j'ai donc essayé de faire une réflexion à la fois planétaire et qui respecte les particularités des différentes sociétés avec leur histoire, leurs institutions ou leur religion. Donc moi j'ai une démarche qui est essentiellement historienne, mais qui est aussi en quelque sorte politique, parce qu'il me semble il faut politiser et complexifier le masculin, ça c'est une chose que j'essaie de démontrer, et ma réflexion s'ancre dans une enquête historique, et c'est vrai que c'est important de savoir si l'on peut dater le patriarcat. En l'occurrence, par exemple, ça me fait penser aux thèses de Maria Djimboutas, qui disait dans les années 80 qu'il y avait la religion d'une déesse mère au 4e millénaire avant notre ère, et que ça aurait été des civilisations qui auraient été ensuite balayées par des peuples plus, on va dire, brutaux, armés, venus des steppes eurasiatiques. Il me semble que cette thèse a été réfutée, notamment par les travaux de Jean-Paul Demoule, qui montrent qu'on n'a pas de preuve qu'il y a eu tout à coup un écroulement de sociétés plutôt matriarcales, remplacées vers l'âge du bronze par des sociétés ou des religions ou des institutions venues de l'Est. Alors, au XIXe siècle, il y a eu aussi la réflexion d'un juriste qui s'appelait Bachofen et qui a aussi parlé, qui était un homme pour le coup, et qui a aussi parlé de ces sociétés matriarcales. Bon, c'est un débat, mais je crois, on n'est sans doute pas d'accord sur tout, mais je crois qu'il y a quand même une réflexion qui est commune, c'est qu'est-ce que le patriarcat et depuis quand il est enraciné, c'est-à-dire depuis quand on vit dans des sociétés telles que la nôtre.
Michel Hidel.
Oui, Maria Djimboutas, je soulignerai qu'Antoinette Fou, qui a créé les éditions des femmes, a également publié Maria Djimboutas, et que, évidemment, ce que vous dites quant aux critiques dont on fait l'objet ces recherches, Ade Gottner-Abendroth en parle infiniment dans son livre, puisque elle détecte et elle s'attache à détecter le biais masculiniste
des recherches,
absolument. Elle donne un exemple qui est assez amusant. C'est une chercheuse iroquoise qui donc fait partie d'une société matriarcale qui lui dit, quand les premiers anthropologues sont venus sur le terrain nous voir, eh bien, d'abord, c'était des hommes, et puis ils n'ont parlé qu'aux hommes. Donc, on se disait, dit cette Iroquoise, que bientôt allaient venir des femmes qui poseraient des questions aux femmes et qui s'intéresseraient aux femmes. Et elles ne sont jamais venues. Donc, si vous voulez, c'est vrai que même Bachofen et même ceux qui se sont risqués à travailler sur ces questions ont été réfutés violemment, etc. Mais ce qui est très intéressant dans le livre de Ade, justement, c'est que est mis au jour le biais qui guide les réfutations question.
Est-ce qu'il existe des preuves ou un faisceau de preuves de l'existence de ces sociétés matriarcales et de leur destruction vers l'âge du bronze?
Il y a quand même des preuves archéologiques, et c'est essentiellement ça. Les preuves, ce sont que des preuves archéologiques, ou par l'écriture, vous parliez de signes qui ont été relevés par Marie Koenig, et que Djimboutas a travaillé énormément sur ces signes. D'ailleurs, le livre qui a été traduit aux éditions des femmes, enfin, traduit par moi-même, aux éditions des femmes, s'appelle Le langage de la déesse. Et ce langage, c'est un faisceau de signes, c'est une totalité de signes qui, bout à bout, ont été déchiffrés et ont produit des significations fort importantes. Et ces preuves ce sont des preuves archéologiques. Évidemment, il n'y a pas de preuve orale.
J'ajouterais deux choses, si vous voulez bien. C'est d'une part que ces sociétés, qu'ils continuent d'exister sur tous les continents, des sociétés matriarcales, qui sont une source également de connaissances, et qui permettent de donner un éclairage sur le passé. Et d'autre part, je pensais, sur le rapport de l'archéologie de l'histoire et l'archéologie du psychisme, que quelque chose dans le développement humain fait qu'il y a des raisons de penser que ces sociétés matriarcales ont en effet existé. Pour Freud, le développement psychique de chaque individu répète en raccourci le cours du développement de l'humanité. Et c'est vrai que si on suit l'analyse d'Antoinette Fouque en ce qui concerne le développement psychosexuel de la fille et du fils, on voit qu'il y a quelque chose de ce schéma qui reproduit ce passage entre, alors c'est pas matriarcat et patriarcat, mais disons que pour l'enfant humain qui naît et tous naissent d'une femme, le premier objet d'amour, c'est la mère. Mmh. Et les filles en particulier, les fils aussi, sauf que les fils après dans leur trajet, dans leur chemin, rencontrent une autre femme et retrouvent quelque chose de la mère dans une autre femme. Les filles, elles, sont prescrites à se débarrasser de la mère, la tuer, s'en détourner et pour se tourner complètement vers le père. Oui. Et c'est vrai que avec Antoinette Fouque, on a essayé de dégager, et avec les éditions des femmes également, puisque c'est un des objets, une des vocations de cette maison d'édition, de lever le refoulement sur, y compris l'archaïque, mais disons ce qui a existé et qui a été refoulé et qui a été mis au noir, eh bien avec l'existence des femmes aujourd'hui, et notamment la maîtrise de la procréation et les mouvements qui ont été, les nouvelles connaissances qui ont été dégagées, eh bien, on peut penser que les femmes existent, et avec des valeurs qui ne sont pas totalement sans rapport avec celles qui étaient, qui sont décrites par Heide dans les sociétés matriarcales.
Ce qui est sûr, c'est que les éléments d'archéologie qu'elle donne dans son livre sont assez convaincants en soi. Mais on va parler de ce rapport mère-fils et du fonctionnement des sociétés matriarcales. On va essayer d'en parler un peu parce qu'il ne faudrait pas non plus croire que c'est tout rose. Il y a un certain nombre de choses qui sont assez, sur lesquelles elle passe de manière un peu cool, Isabelle Drone, dans le fonctionnement de sa société. La question du sacrifice, d'accord. Par exemple. Avant, je voudrais revenir sur vous, sur la manière, vous avez dit tout à l'heure, la société patriarcale dans laquelle on vit, vous en faites une sorte, je reviens là-dessus, vous en faites une sorte de paradigme, universel, en quelque sorte. Et ça vous conduit, il me semble, quand même, à certaines choses dans votre livre qui sont quand même un peu discutables. Vous écrivez par exemple, certaines cérémonies visent à s'approprier le corps féminin. Chez les juifs et les musulmans, la circoncision fait saigner le sexe des garçons comme celui des femmes. Où est-ce que vous êtes allé chercher cette interprétation?
Le fait que nous sommes dans un système symbolique globalement patriarcal, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à remettre en cause. On est dans une société qui considère globalement que le masculin incarne non seulement le supérieur, mais l'universel. Et c'est pourquoi une figure masculine va être automatiquement, en quelque sorte, créditée de la légitimité, de l'autorité, la capacité de créer, alors que les femmes vont être plutôt renvoyées vers les utilités procréatrices ou domestiques. Alors, si vous posez la question de la religion, et notamment des monothéismes, on peut voir en effet que, alors même que la plupart des textes sacrés postulent l'égalité entre tous les êtres humains, les religions ont été tirées dans un sens patriarcal.
Incontestablement, mais cette interprétation, vous la faites vôtre, vous le démontrez jamais. L'idée que la circoncision est une invention qui ferait que les petits garçons s'approprieraient le sexe des femmes, c'est très particulier quand même.
Non, il y a de nombreux rituels qui sont des rituels presque masculinistes, c'est-à-dire d'initiation des hommes entre hommes.
Oui, mais vous ne le démontrez pas dans le cas de la circoncision. Vous y réglez le problème en une phrase.
Enfin, de toute façon, ça renvoie à des lectures. Je ne suis pas un spécialiste de la circoncision, ni dans le judaïsme,
ni ailleurs. C'est une des deux questions que je voulais vous poser, parce qu'il y a un autre point dans votre livre qui me semble quand même problématique, qui semble révéler l'aspect global, en fait, de votre vision, et qui pose quand même des problèmes. Vous écrivez à un moment donné, « Lincoln, Jaurès, Gandhi, Luther King, Yitzhak Rabin et tous les soldats qui voulaient mourir et l'ont fait savoir, ce sont des exemples pour vous de la masculinité du sacrifice qui consiste à s'abolir volontairement. » Mais c'est-à-dire que vous mettez sur le même plan des gens qui se sont engagés en 14 pour aller mourir et des gens qui se sont fait assassiner.
Oui, j'ai essayé de réfléchir aux différentes figures masculinité de domination. Il n'existe pas plus un éternel masculin qu'un éternel féminin. Et en ce sens, j'ai essayé de montrer, après par exemple Ray Winconnell, j'ai essayé de montrer comment la masculinité de domination se diffracte, c'est-à-dire en plusieurs figures. Donc oui, il y a une masculinité d'ostentation qui consiste par exemple à afficher sa capacité à prendre des risques, sa force musculaire ou sa prodigalité. Et puis il y a des masculinités de contrôle, et en l'occurrence, puisque vous faisiez référence à cela, cette masculinité de sacrifice, c'est celle qui porte certains hommes à choisir de s'abolir volontairement dans une cause plus grande qu'eux-mêmes.
Mais pardon, mais Jean Jaurès et Martin Luther King et Yitzhak Rabin n'ont pas fait le choix de leur sacrifice.
Ils sont évidemment qu'ils n'ont pas fait le choix de se faire assassiner, mais ils ont fait le choix de se dévouer corps et âme à une cause qui était plus grande qu'eux-mêmes.
Mais il n'y a pas que des hommes qui font ça. Emma Goldman, la leader anarchiste, a dépouillé sa vie entière à la cause anarchiste.
Bien sûr, mais je parle de modèles de masculinité. Il y a beaucoup...
Vous vous rendez compte que c'est quand même un peu dangereux de mettre sur le même plan, de considérer comme sacrifiés des gens qui se font tuer sans le vouloir et des gens qui décident de par exemple, des kamikazes.
Je dis que le kamikaze, c'est vraiment un exemple limite. Et j'essaye de montrer qu'il y a des formes de masculinité de domination qui, oui, consistent à se perdre dans une cause plus grande que ceux et celles qui les portent. Je ne vois pas en quoi ça vous étonne.
C'est les exemples que vous donnez qui me semblent problématiques. C'est-à-dire que vous ne faites aucune différence entre Jaurès, qui était pacifiste, et un type qui va s'engager la fleur au fusil.
Mais parce que la question, ce n'est pas tant leur cause ici, c'est les modèles de masculinité, c'est la manière dont la masculinité s'exprime. Et ici, vous n'arrivez pas, semble-t-il, à faire la différence entre des causes individuelles et des modèles de masculinité. Et là, moi, je ne suis pas un spécialiste ni de Jaurès ni de Lincoln. Ce que j'essaye, c'est de mettre au jour la manière dont certaines masculinités de domination s'expriment. Et ça, je crois que c'est effectivement fondamental de s'y efforcer.
Peggy Sastre.
Ouf. je vais parler complètement d'autre chose. Je vais revenir à ce qui a été dit un peu plus tôt sur la référence à la biologie. Donc j'aimerais dissiper en fait tout de suite une idée reçue et une erreur qui me semble vraiment trop courante. C'est quand on assimile la biologie à quelque chose de fixé, de tous les termes autour du déterminisme, etc. Et le livre sur le matriarcat, en fait, est totalement compatible avec une vision biologique des choses, parce que ça montre justement comment les environnements, toute cette nuance de matriarcat a un lien avec les écosystèmes et les écologies très spécifiques des différentes régions. Et ça, c'est vraiment un travail que la biologie fait depuis son origine et surtout après Darwin. L'argument qui est de dire c'est pas biologique parce que il y a toute une gamme de phénomènes, en fait, et c'est pas un argument, parce que la biologie montre aussi comment par les interactions avec l'environnement chacun trouve sa niche, et voilà, donc c'est pas incompatible avec une perspective biologique, en fait.
Alors, le modèle qui émerge de société matrielle, il y a quand même une sorte de modèle global qui émerge du livre de Heidegger, Göttner, Abendroth. C'est l'idée d'une société relativement égalitaire, avec des modèles tout à fait étonnants, parce qu'on a les mariages de groupe, les mariages frères-sœurs, la polyandrie, dans certains cas la polygamie au sein d'une société matriarcale. C'est tout à fait étonnant. Mais ce qui émerge, c'est cette image, ce qui reste, la espèce de permanence qui reste, c'est l'idée d'une mère qui d'une déesse qui veille sur la vie et la mort et sur la renaissance, l'image, ce que développe Robert Graves dans ses travaux et que reprend Ida Abendroth, l'image de la femme et du fils, vous en parliez tout à l'heure, jusque dans l'imagerie de la Vierge et de Jésus, à travers notamment une notion de sacrifice. Et Ida Abendroth montre qu'en fait, c'est assez fascinant d'ailleurs, ces sociétés matriarcales reposaient sur l'idée d'un sacrifice volontaire d'un ou de plusieurs rois sacrés, qui étaient considérés comme rois au début de l'année, je suppose, et finalement tués dans le cadre d'un rituel sacrificiel.
Parce que oui, au début de l'année, vous avez raison, parce que c'est lié, en fait, c'est tout à fait lié au cycle des saisons. Puisqu'une des caractéristiques des sociétés matriarcales, c'est d'être aussi dans un grand respect de la nature et de l'environnement. Mmh. Et la nature étant divinisée, en fait, pour toutes les sociétés matriarcales, la nature est une déesse, c'est la terre-mère. Et voilà. Donc le roi était choisi, mais il était lui-même consentant. Il n'était pas du tout opposé à ce choix, c'était même un honneur.
Mais alors qu'est-ce qu'on en sait?
Non, c'est évidemment, il n'y a pas de preuves matérielles, oui. Puisque maintenant, le sacrifice existe toujours, elle en parle,
oui,
mais
oui.
Remplacé par un animal.
Ida Abendroth dit même que les sacrifices humains sont continués très tard, quand même, dans certaines sociétés matriarcales, jusqu'au 19e siècle.
Moi, je suis un peu les reliquats d'hier, j'habite à Rouen, et d'accord. Voilà, ah, oui. Vous avez tout compris. Donc... Et donc oui, maintenant, les sacrifices humains ont disparu, en gros, et sont remplacés par des animaux qui sont divinisés également. Mais donc ce roi était tout à fait consentant, parce que c'était, en fait, ça dépassait sa personne. Il était le représentant de la tribu, du clan. Donc pour lui, c'était un honneur extraordinaire d'être sacrifié. C'était pas du
c'est
tout.
Parce qu'il allait renaître.
Parce qu'il considérait qu'il allait renaître.
C'est ce qu'on voit. Et tout le monde considérait qu'il allait renaître.
Alors, c'est probablement ce qui est à l'origine de la légende des Ménades dans la Grèce antique, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, on peut le supposer.
Il y a une correspondance.
Mais Ida Abendroth est quand même assez cool, et passe assez rapidement sur l'idée du consentement, tout de même. Le fait est qu'on ne peut pas savoir, on ne peut rien savoir de ce consentement.
Si, en gros, elle l'explique, comme vous dites, elle passe un peu rapidement, c'est parce que ça paraît plus évident quand on lit tout le livre. Non, bon, ça paraît un peu bête de dire ça, mais évidemment, puisqu'au début, il y a toute une explication théorique. Bon. Il est consentant parce que ça dépasse sa personne. Est-ce que c'est pas c'est, ah bah non, il faut pas le considérer.
On retrouve la notion de sacrifice d'Ivan Jablonka tout à l'heure.
Comme un individu, comme une personne. En fait, il est cet homme, puisque en général c'est un homme, il est complètement imprégné de son destin, entre guillemets, mm-hmm. ce qui va lui arriver. Parce que depuis qu'il est né, il a vu déjà des sacrifices, il a vu que ça existait, il a vu que c'est une continuité. Pour elle, c'est un cycle. Si vous voulez.
Donc,
c'est
alors,
un cycle de vie et de mort,
où la renaissance a un rôle
majeur. C'est la notion de renaissance, c'est majeur dans les sociétés matriarcales.
Alors on aurait une masculinité de sacrifice, pour reprendre votre expression, Yvon Jablonka, au sein de sociétés matriarcales.
Ce que je voulais dire à propos de ce débat avec Yvon Jablonka, c'est que lui, d'une certaine manière, dans son livre, il commence par le patriarcat.
Oui.
Voilà. Et le livre de Heide Göttner Abendroth lève une espèce de méconnaissance totale sur ce qui vient avant.
Sur
l'analyse du patriarcat, qui en fait, dont on comprend d'ailleurs en lisant Heide, qu'il est matricide, c'est-à-dire qu'il s'est érigé sur le meurtre de la mère, sur l'appropriation de la force. De la capacité procréatrice des femmes, puisque dans les sociétés matriarcales, ce qui fait que les femmes sont au centre, c'est cette capacité qu'elles ont de faire des enfants, en plus en un temps où on n'est pas forcé, où les hommes ne sont pas forcément encore très sûrs d'être pour quelque chose dans la procréation, et puis dans un temps aussi où les relations sexuelles sont extrêmement libres et où il y a une multiplicité de partenaires pour les femmes qui fait que la paternité est tout à fait incertaine. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans les sociétés matriarcales, ce sont les frères de la mère qui jouent le rôle de ce qu'on appellerait aujourd'hui le père social. C'est-à-dire que...
Porte-parole.
Voilà, de père social à l'égard des enfants. Il doit s'occuper des enfants, comme les mères doivent s'occuper des enfants. On dit d'un homme... Enfin, on attend d'un homme qu'il se comporte comme une bonne mère, c'est-à-dire dans le souci de l'autre, dans le partage, dans le don. Elle explique aussi que ces sociétés où les mères sont au centre de la transmission ne sont pas des sociétés d'accumulation et de prise de pouvoir, mais qu'au contraire, tous les membres du clan sont censés donner au clan entier. Donc, ce que ce livre permet, c'est de comprendre à quel point il y a une dépossession, une appropriation de quelque chose qui était une reconnaissance de la part des femmes dans l'humanité. Et je retrouve dans le livre d'Yvon Jablonka beaucoup, beaucoup d'éléments qui viennent des connaissances amenées par les femmes, par le mouvement des femmes, etc. C'est-à-dire qu'il fait aussi une forme de compilation de tout ce qu'on sait depuis une cinquantaine d'années et qu'on, et, ou même moins, et qu'on ne savait pas avant. Et donc, il interroge ses connaissances patriarcales et ce mode patriarcal, et en ça... il y a forcément une justesse dans sa position.
Mais alors, pour conclure, ça signifie quand même qu'on est passé de deux... Il y a deux types de sociétés, en quelque sorte. On est passé de la société du sacrifice du fils-roi au sacrifice du meurtre de la mère. Il y a toujours, à un moment donné, quelqu'un qui se fait tuer.
Cette question du sacrifice sur laquelle vous insistez est une question importante, mais c'est vrai qu'il aurait fallu que Haïde soit là pour y répondre.
Oui.
La grande question pour moi, c'est celle des preuves.
Yvon Jablonka.
C'est-à-dire que quand on essaye de dire, si on dit par exemple que tel clan fonctionnait de telle manière, avec tel rôle des femmes et tel rôle des hommes, faut le prouver. Et pour ce qui est des époques très éloignées, par exemple le paléolithique supérieur, c'est très difficile de le prouver. C'est plus facile de faire des observations au Népal ou en Inde aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je préfère me fonder sur des preuves, en avouant certains de mes doutes, bien sûr, et je pense qu'il faut faire attention à pas verser dans une espèce de romantisme de la féminité qui n'est pas spécialement prouvé, en tout cas pour les époques très anciennes.
Je vous croyais pourtant un homme juste, ou en tout cas dans cette orientation. Je suis surprise de ne pas entendre ça dans ce que vous venez de dire.
There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us?
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Clément Daté et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière. I was so easy to defeat, I was so easy to control, I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the left and right, a war between the black and white, a war between the odd and the even. Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden.
Why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war? And